Radio Météo. Dométéo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Bonjour frère Edouard.
Bonjour frère Louis.
Nous achevons aujourd'hui le paragraphe numéro 2 du catéchisme de l'Église catholique, avec les petits en bref qui clôturent ce type de paragraphe. Nous étions dans le paragraphe 2, intitulé « L'Église, peuple de Dieu, corps du Christ, temple de l'Esprit-Saint ». Dans ce en bref qui commence au numéro 802, est-ce que tu peux nous rappeler comment Jésus a-t-il constitué un peuple ?
Alors, il faut comprendre, avant de répondre à ta question, la structure de ces en bref. Entre 801 et 804, c'est autour de la première personne de la Trinité, le Père, qui envoie son Fils pour constituer l'Église dans le monde. Ensuite, le Fils lui-même, qui par son sacrifice sur la croix, nous donne ce corps du Christ, le réalise pour de bon, entre 805 et 808, et les deux derniers, 809-810, c'est autour de la troisième personne de la Trinité, son action qui rassemble l'Église. Mmh. Donc c'est très beau parce qu'à chaque fois c'est trinitaire.
Ah oui.
Et je pense que c'est important de ne jamais oublier que l'unité de l'Église vient de l'unité même du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et donc quand on parle d'un peuple qui appartiennent en propre à Dieu, eh bien, il faut toujours penser au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Certes, c'est Jésus qui donne la forme, c'est Jésus qui s'incarne, c'est Jésus qui se voit. Nous nous souvenons des débuts de la première épître de Saint Jean, cet admirable passage dans lequel Saint Jean redit ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contempler ce que nos mains ont touché du Verbe de vie, car la vie s'est manifestée, nous l'avons vu et nous en rendons témoignage et nous vous annonçons cette vie éternelle qui était tournée vers le Père et qui nous est apparue. C'est magnifique ce début de la première épître de Saint Jean qui montre bien que le Christ Jésus, comme dit Saint Paul ou son entourage dans la fameuse épître de Tite, le Christ Jésus s'est livré pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de purifier un peuple qui lui appartienne en propre. Et par ailleurs, vous qui êtes une race élue, dit Saint Pierre en s'adressant à nous, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, on comprend que nous sommes le peuple de Dieu, ce peuple de Dieu nouveau, dans la mesure où il y a quelque chose de nouveau qui est advenu, c'est-à-dire la nouvelle alliance.
Mmh, mmh. Oui. Alors donc, tout le monde est-il appelé à entrer dans ce peuple de Dieu ? Est-ce que tout le monde y est invité ?
Alors, tout le monde y est invité, évidemment, parce que Dieu a un cœur large et il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais évidemment, il fait appel à notre liberté intérieure. Et l'Épître aux Hébreux, au chapitre 5, verset 9, précise que le Christ est cause du salut à ceux qui lui obéissent. Donc il faut qu'il y ait une réponse. Dieu nous a créés sans nous, mais il ne peut pas nous sauver sans nous, dit saint Augustin. Et donc il faut qu'il y ait cette réponse de l'homme. Et on pense que tous les hommes, bien sûr, sont orientés, mais qu'il y a... Il peut y avoir des résistances. Cependant, nous devons avoir un regard positif. Et saint Augustin dit aussi, tu dois considérer tout homme comme ton prochain, même avant qu'il ne devienne chrétien. Tu ne sais pas ce qu'il est aux yeux de Dieu. Tu ignores ce que Dieu sait de lui. Il peut arriver que celui dont tu te moques, parce qu'il adore des pierres, se convertisse à Dieu et l'adore avec davantage de piété que toi, le railleur. C'est-à-dire, dans le fond, le païen peut un jour être plus avancé que nous dans les voies de Dieu, alors qu'au moment où on le voyait, on avait un peu l'impression que c'était un peu risible, son adoration de Bouddha ou son adoration de la pierre noire à la Mecque ou des choses comme ça, ça nous fait bien rire, mais tout cela est bien loin, évidemment, d'une véritable attitude chrétienne qui doit regarder tout homme avec humilité. Hein. Ceux qui n'appartiennent pas encore à l'Église sont déjà donc nos proches d'une manière cachée. Il en est qui, de manière cachée, sont très éloignés de nous. Donc, puisque nous ne connaissons pas l'avenir, il nous faut considérer chaque personne, dit saint Augustin, comme notre prochain. Proche par cette condition commune de mortalité qui nous a fait naître sur terre dans une situation semblable, proche également par l'espérance de l'héritage éternel. Nous ignorons quel sera dans l'avenir celui qui aujourd'hui n'est rien.
Ah, oui.
C'est très beau, hein, oui. Ce passage. Commentaire donc du psaume 25.
Oui. Et donc, il faut regarder toute personne en étant conscient peut-être de du cadeau énorme qu'on a reçu d'être chrétien, mais de faire en sorte que les autres aussi puissent y accéder.
Exactement, d'avoir toujours la main tendue vis-à-vis de tous pour qu'ils puissent un jour se convertir au Dieu vivant.
Comment sommes-nous liés les uns les autres dans la foi? Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose qui nous unit les uns aux autres? Ou est-ce qu'on sera vraiment unis seulement au ciel, ou déjà il y a quelque chose d'une unité qui nous unit les uns les autres?
Alors, outre ce que nous avons vu, race élue, sacerdoce royal, nation sainte, on peut dire que le baptême qui donne la foi, on reçoit la foi de l'Église. D'ailleurs, les parents, quand leur enfant est présenté sur les fonts baptismaux, le prêtre demande « Que demandez-vous à l'Église ?» Eh bien, les parents, s'ils ont une bonne formation catholique, répondent « la foi que donne le baptême ». La foi est un don. Tous les hommes sont appelés à faire partie du peuple de Dieu, afin que dans le Christ, les hommes constituent une seule famille et un seul peuple de Dieu. C'est une famille. Hein, c'est très beau, cette expression qui vient du Concile Vatican II à travers Agentes, et le synode pour l'Afrique avait remis en valeur en disant « En Afrique, on est particulièrement sensible à cette dimension familiale ». Et c'est vrai qu'il y a des charismes particuliers dans les peuples qui font qu'un aspect du mystère est mieux mis en valeur que d'autres, et l'aspect famille est un bon exemple pour comprendre que nous formons une famille, nous formons le corps du Christ par l'Esprit qui nous rassemble dans l'unité.
Le Christ donne sa vie pour appeler, constituer son peuple, le purifier. Il donne l'Esprit Saint pour que cet Esprit se répande dans tous les membres. Est-ce qu'on est bien sûr que l'Église aujourd'hui est parfaitement unie au Christ? Est-ce qu'elle répond à ce projet que Jésus avait et toute la Sainte Trinité avait de s'associer à un peuple? Est-ce que l'Église est l'accomplissement de cette œuvre du Christ?
Oui, l'Église est vraiment sainte, une sainte catholique et apostolique. Alors ses membres sont en situation de purification, parce que l'Église est le rassemblement d'abord de pécheurs en cours de métanoïa, en cours d'épistrophe, c'est-à-dire en cours de changement d'esprit, en cours de changement de direction. Et ces pécheurs, parfois, donnent le sentiment que ça n'avance pas très vite, parce qu'ils restent longtemps pécheurs. Et c'est pour ça que l'on dira, d'une manière un peu raccourcie, que l'Église est Saint-Père purificanda, qu'elle doit sans cesse se purifier. Mais dans ses membres, en elle-même, elle est sainte. Et de ce point de vue-là, on peut dire que l'Église est l'épouse du Christ, il l'a aimée et s'est livrée pour elle, il l'a purifiée de son sang, hein, au numéro 808 du catéchisme, il a fait d'elle la mère féconde de tous les fils de Dieu, mais c'est une épouse de sang, hein, et Moïse, par exemple, a été traité d'époux de sang, déjà dans la Genèse, comme premier, je dirais, grand leader du peuple ancien, du peuple de Dieu, il est appelé époux de sang. Et Jésus, combien plus, est l'époux de sang de par son sacrifice sur la croix.
On lit même au 807 que l'Église est ce corps dont le Christ est la tête. Elle vit de lui, elle vit en lui, elle vit pour lui, et lui vit avec elle et en elle. Donc il semble qu'il y ait bien une communion, une union entre le Christ et l'Église très...
C'est une union totale, évidemment. C'est la sainteté de l'Église qui manifeste la vérité de ses paroles, en particulier l'Église au ciel, l'Église glorieuse, avec comme modèle par excellence dans cette Église la Vierge Marie, qui est toute sainte, toute pure, toute immaculée, et qui fait que quand saint Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, considère que c'est important que nous le soyons aussi, on comprend que c'est déjà réalisé d'une manière vraie chez ceux qui sont déjà au ciel. Et donc les paroles de l'Écriture sont déjà réalisées. On peut ainsi être dans la certitude que ce plan préétabli de celui qui veut conduire toute chose et faire de nous un véritable temple de Dieu, eh bien, c'est vrai, hein. C'est ainsi qu'il nous a élus en Jésus-Christ dès avant la fondation du monde pour être saints et immaculés en sa présence, dans l'amour, déterminant d'avance que nous serions pour lui des fils adoptifs par Jésus-Christ. Tel fut le bon plaisir de sa volonté. Éphésiens chapitre 1. Donc c'est vrai, ça se réalise.
En bref, se conclut avec ce que tu nous rappelais au tout début, au numéro 802, enfin que tout ce en bref est lié à la Sainte Trinité. On lit au 810, « Ainsi l'Église universelle apparaît comme un peuple qui tire son unité de l'unité du Père et du Fils et de l'Esprit Saint. » Donc on a l'unité de l'Église à quelque chose de semblable, enfin, ou veut se rapprocher de cette unité qu'il y a entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint.
Oui, cette unité nous est donnée. L'union des hommes et l'union de l'Église n'est pas en soi quelque chose qui se ferait par nos propres forces. L'unité donne l'union, et ce n'est pas le contraire. Parfois, des personnes dans des courants œcuméniques ou autres pensent que l'union va faire la force, que l'union va faire l'unité. Non, c'est le contraire. C'est l'unité qui forme l'union. Ça renverse la vapeur et tout vient d'en haut.
Merci, frère Edouard.
Merci.
À bientôt.
À bientôt.